vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Lords of the Fallen. On aura un petit point sur les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news concernant le jeu The Elder Scrolls 6. On aura ensuite une news technologie avec un drone pris pour cible par un aigle. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Lords of the Fallen. Donc c'est un jeu vidéo d'action et de rôle qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été réalisé par César Virtosu, développé par Xworks et édité par CE Games. Successeur du jeu vidéo du même nom datant de 2014, il est sorti le 13 octobre 2023 sur Microsoft Windows, PlayStation 5 et Xbox Series. Dans Lords of the Fallen, un vaste monde de Dark Fantasy vous attend. Lancez-vous dans une quête épique pour renverser Adir, le dieu démon. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 75 sur 100 sur Metacritic. Tel un disciple qui tombe mais se relève avec un surplus de hargne, bien décidé à marcher de front aux côtés de celui à qui il doit tant, à savoir Elden Ring, Lords of the Fallen fait un retour fracassant dans l'actualité vidéoludique. Pour lui, il était temps de faire table rase, presque 10 ans après une première incursion peu convaincante, dans le domaine des Souls-like. Aujourd'hui, le genre a bien progressé et c'est sur les cendres de Lords of the Fallen 2 que les équipes de CE Games et Xworks ont voulu eux aussi nous prouver leur avancée. Ce retour est-il suffisant pour faire de l'ombre à tous ses autres concurrents ou même pour bomber le torse face à Elden Ring? Voici tout ce que je peux vous dire sur le reboot de Lords of the Fallen. Des colonnes d'un rouge flamboyant qui percent le ciel, des contrées désolées faites de ruines dans lesquelles ne progressent que quelques survivants, emprises avec des armées de monstres bien décidés à réveiller leur leader, le dieu démon Adir. En peu de mots, Lords of the Fallen nous ressarce encore cette direction artistique où une dimension démoniaque a pris le pas sur le sacré. Et oui, comme bien souvent, il y a une histoire de religion qui disjoncte et le cadre de la dark fantasy, comme on a pu le connaître depuis des décennies à travers la pop culture, était un terreau fertile bien qu'extrêmement classique. Difficile de réinventer la roue lorsque l'on passe après des monuments comme Elden Ring, et ce n'est pas spécialement l'objectif majeur de Lords of the Fallen, qui a bien d'autres ambitions, principalement son gameplay. Pour autant, si le calque de ses influences majeures a permis d'établir les contours d'un monde au bord de l'abîme, on se plaît à découvrir et à contempler, donc en fonction des performances, les environnements flattent la rétine et l'on peut apprécier la minutie de certains détails. Donc on peut contempler les différents biomes qui composent Lords of the Fallen, même si on ne retrouve pas la liberté si grisante offerte par le hit de From Software. Car oui, je le souligne d'emblée, ce Souls-like n'est pas un monde ouvert comme pouvait l'être Elden Ring. N'espérez pas commencer le jeu en prenant la décision de partir dans telle ou telle direction sous prétexte que vous avez eu un bon pressentiment. Ici, vous découvrez assez rapidement le sentier à suivre, celui-là même qui vous fera enchaîner les zones, et les différents boss et mini-boss qui y ont élu domicile. Ce qui pourrait ressembler à une faiblesse devient en quelque sorte un avantage. Pour les néophytes du genre, Lords of the Fallen n'en reste pas moins une sympathique porte d'entrée. Plus particulièrement parce que le soft supervisé conjointement par CE Games et Xworks propose quelque chose d'assez étoffé et de très cadré pour éviter la sensation d'être englouti et écrasé par l'étendue de son univers. Quoi qu'on en dise, les biomes disposent d'une taille somme toute correcte, misant autant sur l'horizontalité que la verticalité, comme pour compenser cette décision de ne pas être un open world, et ils s'interconnectent judicieusement pour mieux donner corps à l'ensemble. Il ne faudra d'ailleurs négliger aucun recoin de l'univers, car comme dans les jeux From Software, vous devrez dénicher des items précis pour améliorer votre panoplie. Cependant, cette structure ne l'excuse pas d'avoir fait l'impasse sur une carte en bonne et due forme. Si au fil de nos allers et retours, on parvient quelque peu à réaliser une cartographie mentale de chaque lieu et à se repérer aisément, on aurait tout de même apprécié cette petite attention, d'autant qu'on ne nous mentionne jamais notre position exacte dans le royaume de Mondstadt. Loin d'être un mauvais élève en la matière, Lords of the Fallen a tout de même une idée intéressante pour faire amende honorable. Tout au long de l'aventure et dans chaque biome, il est possible de dénicher une ou plusieurs cartes contenant majoritairement des croquis, qui fournissent des indications sur le chemin à parcourir pour atteindre la prochaine destination. À côté de ça, il faudra reprendre la même méthode que dans de nombreux Souls-like, être attentif au dialogue, à la narration environnementale et aux descriptions des objets qui sont bien souvent remplis de précieuses données. La formule des Souls-like n'a plus de secret pour vous, alors vous ne serez clairement pas dépaysé et aurez indéniablement l'impression d'être en terrain connu en vous lançant dans Lords of the Fallen, et ce aussi bien en termes d'univers que de gameplay. Bien que l'on incarne l'un des preux noirs croisés de cet univers, vous débutez votre périple en personnalisant votre héros et en lui conférant l'une des 9 classes initiales. Chacune dispose d'un avantage et d'un désavantage dans telle ou telle statistique, ou s'avère totalement neutre pour un challenge corsé dès les premiers instants. À côté de ça, vous gérez entièrement votre équipement de la tête aux pieds et organisez votre arsenal comme vous le souhaitez. Notez que celui-ci est suffisamment dodu pour vous permettre d'y trouver votre bonheur, si tant est que l'on remplit les conditions et que l'arme en question se focalise sur votre attribut majeur, et vous ne pourrez donc ne faire qu'une bouchée de vos ennemis qui auront le malheur de jouer avec vos nerfs. D'ailleurs, il y a une petite coquetterie dans le jeu à distance à l'arc et à l'arbalète. Pas besoin d'acheter une pelletée de flèches et de carreaux, vous disposez en réalité d'une jauge de munitions que vous pouvez restaurer en vous reposant ou en utilisant un certain type de consommable. Si vous fouillez bien le monde, vous devriez trouver différents types de flèches et de carreaux que l'on peut assigner aux 3 slots du carquois. Évoquons maintenant la montée de niveau. Donc à la différence des Souls, vous ne ramassez pas des âmes, mais de la vigueur. Vous pouvez dépenser celle-ci pour gagner des niveaux, acheter des objets, vous procurer des sorts, améliorer l'équipement ou encore pour récupérer des runes. Pour ce qui est de votre lanterne, il faudra jouer les chasseurs de trésors dans l'Umbral, car les fameux yeux à glaner ne sont cachés que dans cette dimension. Ne sous-estimez pas cette feature, car elle permet de l'agrémenter de passifs parfois très utiles. Plus qu'une relique à votre ceinture, la lanterne d'Umbral est totalement incorporée au gameplay de Lords of the Fallen, puisqu'elle vous permet de passer d'un monde à l'autre, de la réalité des vivants à celle des morts. Au-delà de faire apparaître des portions de décor qui ne sont visibles que dans une dimension précise, vous obligeant à passer de l'une à l'autre pour progresser dans votre périple, c'est aussi le moyen idéal et unique d'atteindre des lieux oubliés et d'acquérir de précieux trésors. Mieux encore, cette lanterne vous octroie constamment une seconde chance. Donc à travers cet objet, Lords of the Fallen se la joue un peu Sekiro Shadows Die Twice. Décidément, CE Games et Xbox sont bien influencés par la ludographie de From Software. Donc lorsque vous mourrez dans le monde des vivants, ce qui arrivera souvent, le combat continue dans la dimension des morts. Vous revenez à la vie avec une jauge de santé à moitié pleine, l'autre partie étant soumise à l'érosion, et vous repartez à l'assaut des monstres et des entités qui surgissent en continu. Mais rassurez-vous, vous pouvez faire le chemin inverse. À travers les décors, vous pourrez apercevoir des espèces de petites statues qui vous renvoient dans le monde des vivants. Lords of the Fallen vous le fait vite comprendre, le but n'est pas de rester indéfiniment dans l'Umbral. En plus des ennemis qui réapparaissent sans cesse, un sablier circulaire se remplit petit à petit, et à la fin du compte à rebours, vous ne pourrez plus vous soigner et un monstre particulièrement létal se lancera à vos trousses. Retenez-le bien, vous n'êtes à l'abri nulle part. Enfin, il ne faut pas oublier que la meilleure défense, c'est l'attaque. À l'image de Sekiro, une fois de plus, Lords of the Fallen vous encourage à frapper juste et surtout à porter des coups puissants à vos adversaires. Chacun d'entre eux possède une jauge de posture qui, une fois vidée, vous demande une dernière action pour déclencher une attaque scriptée, leur retirant une grande quantité de vie. Dans le monde dangereux de Lords of the Fallen, et plus particulièrement face aux boss les plus retors, c'est une stratégie dont il vous faudra user et abuser. Une autre chose importante à savoir, c'est que Lords of the Fallen comporte une fonctionnalité en ligne. À l'image des Souls, cela permet aux joueurs connectés d'envahir votre royaume, mais cela vous octroie également la possibilité de parcourir l'aventure avec l'un de vos amis. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter tout de suite la musique The Picture of Innocence, composée par Knut Havenstrup Hogan, une musique extraite de l'OST du jeu Lords of the Fallen, et on revient juste après. Thank you. Donc c'était la musique The Picture of Innocence composée par Knut Havenstrup Hagen, une musique extraite de l'OST du jeu Lords of the Fallen. On continue donc avec la deuxième partie de ce test. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Lords of the Fallen reprend solidement les bases du gameplay des Souls, mais cela ne l'a pas empêché d'y insuffler quelques idées originales, à l'image du principe d'érosion. Habituellement, lorsque vous décidez de partir à l'aventure, bouclier en avant ou avec les armes servant de barrière de protection, vous exposez tout de même votre barre de santé. En cas d'attaque, vous perdez une portion de santé, mais bien moins qu'en encaissant frontalement les coups. Ici, bloquer une attaque vous protège directement, mais vous applique tout de même un malus d'érosion. Dans les faits, votre jauge de santé se grise petit à petit, sauf que vous êtes bien loin d'être tiré d'affaire. En l'occurrence, l'érosion peut être fatale si vous n'agissez pas prudemment, c'est-à-dire qu'au moment où une attaque vous touche directement, toute l'érosion se soustrait de votre barre de vie, en plus de vous infliger des dégâts de base, et cela peut faire disparaître toute votre santé en un claquement de doigts. Pour reprendre l'avantage, il faut donc être patient puis agressif au bon moment. En effet, à chaque fois qu'une de vos attaques fait mouche, l'effet d'érosion s'estompe petit à petit et redonne des couleurs à votre jauge de vitalité. Grâce à cette idée, Lords of the Fallen ajoute de la tension à des combats déjà exigeants. Dans le monde de l'Umbral, ce principe d'érosion est exacerbé. Et oui, si vous pensiez avoir une seconde chance en revenant à la vie dans le royaume des morts, il ne faut pas baisser sa garde pour autant. Dans cette dimension si particulière, les ennemis raffolent de ce malus. De nombreux spécimens peuvent ternir votre barre de vie en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tandis que d'autres se feront un malin plaisir de la réduire à néant. Comme on le sait, l'Umbral regorge d'ennemis qui surgissent en continu et peuvent rapidement vous acculer. Prudence est donc mère de sûreté comme on dit, mais vous pouvez prendre les monstres à leur propre jeu. En tant que guerrier promu au rang de porte-lampe, vous avez un pouvoir à disposition qui vous permet d'extirper l'âme du corps d'un ennemi. Une fois celle-ci exposée, vous n'avez qu'à la ruer de coups pour appliquer une portion d'érosion sur la barre de vie de votre adversaire, proportionnelle au nombre d'attaques portées. Dès que celui-ci récupère son âme, vous n'avez qu'à lui asséner une seule attaque pour lui soustraire un segment plus ou moins important de santé. Lors de certains passages, c'est une habileté qui peut très clairement vous sauver la mise. Si faire les frais de l'érosion risque de vous agacer, attendez-vous aussi à jubiler au moment de retourner cette technique contre vos ennemis. Donc comme je viens de le dire, Lords of the Fallen risque de jouer avec vos nerfs. Sous couvert d'un gameplay plus accessible, le jeu de CE Games n'en apparaît pas moins punitif par moment. En soi, ce n'est pas si étonnant, puisqu'il s'agit là d'une composante qui fait le sel des Souls-like, et qui consiste à trouver le juste milieu entre le fait de malmener le joueur et l'inciter à persévérer et à se dépasser. Cette philosophie, Lords of the Fallen la garde bel et bien en tête durant toute son aventure, mais laisse le sentiment de la perdre de vue à certains moments, de s'égarer, peut-être par excès de zèle. Le début de notre périple paraît assez abrupt, avec un joli pic de difficulté qui nous met rapidement dans le bain, d'une aventure parfois âpre, continuant de nous faire suer à grosses gouttes par-ci par-là. Au fil de notre progression, des niveaux gagnés et judicieusement investis dans telle ou telle caractéristique, on sent que l'on s'adapte aux exigences de Lords of the Fallen, mais il y a toujours ces moments qui vous mettent à l'épreuve, que ce soit parce que l'environnement vous met dos au mur, parce qu'un biome vous demande d'adapter votre équipement et vos accessoires, ou tout simplement parce qu'un mid-boss ou un boss bien énervé vous attendent à l'angle d'un bâtiment ou de l'autre côté d'un rideau opaque. Néanmoins, on ressent un souci dans la structuration de cette difficulté. D'une part, on a parfois un déséquilibre dans l'enchaînement de certains affrontements, passant d'un mid-boss à une immense créature en ne faisant qu'une centaine de pas. D'autre part, il y a des phases d'exploration qui deviennent particulièrement ardues, parce que les développeurs y ont installé un comité d'accueil à vous procurer des sueurs froides et des crispations agaçantes. Dans ces moments-là, il n'y a pas de honte à avoir, comme on le dit si bien, courage, fuyons. Certes, Lords of the Fallen est bel et bien un die and retry, mais il ne faut pas oublier son objectif qui consiste à purifier 5 points bien stratégiques, symbolisés par des piliers de feu pour empêcher la résurrection du dieu démon Adir. Donc au diable le menu frétin. Notez que le jeu est plutôt indulgent et vous permet à certains endroits d'établir vous-même un vestige temporaire. En combattant les monstres de l'Umbral, vous pouvez avoir la surprise de récupérer un précieux butin, une graine vestigiale. A l'aide de la lampe d'Umbral, vous pouvez découvrir des parterres de fleurs sur lesquelles faire émerger votre vestige d'appoint. Chaque fois que vous en placez un, le précédent disparaît. De ce fait, je ne peux que vous conseiller de bien peser le pour et le contre avant d'en placer un, d'autant qu'un vestige fixe peut parfois se trouver non loin de là. Bref, tout cela ajoute une couche de tension supplémentaire et vous force à doser votre gourmandise et à vous poser la question « Est-ce que je tente le diable ou est-ce que je joue la sûreté ?» Quoi qu'il en soit, entre le respect des codes du gameplay des Souls-like, la stratégie d'attaque centrée sur la barre de posture, les différentes approches permises par les pouvoirs de l'Umbral et la gestion de l'érosion qui peut être salvatrice, autant pour votre survie que pour votre triomphe, rares sont les moments où l'on s'ennuie et on reste stoïque durant le périple proposé par Lords of the Fallen. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a une structure Souls-like qui tient la route, les phases de l'Umbral qui renforcent la tension du jeu, de jolis indices manuscrits pour se repérer, un gameplay plus accessible grâce à des idées intéressantes, une direction artistique convaincante et une exploration densifiée grâce aux deux mondes parallèles. Pour les points faibles, on a une structure qui manque d'un vrai supplément d'âme, les phases dans l'Umbral qui déséquilibrent le challenge, on aurait aimé une carte digne de ce nom, on a une interface et un affichage un peu grossiers, de grosses aberrations dans la courbe de difficulté et une absence de quête secondaire qui fait grimacer. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Lords of the Fallen, c'est Indomitable, composé par Knut Havenstrup Hogen, et on revient juste après. Donc c'était la musique Indomitable composée par Knut Havenstrup Hogen, une musique extraite de l'OST du jeu Lords of the Fallen. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour parler des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news de jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top PlayStation 5. On a en 5ème place EA Sports FC 24 sur Nintendo Switch, un jeu d'Electronic Arts. En 4ème place c'est Assassin's Creed Mirage sur PS5, un jeu d'Ubisoft. En 3ème place c'est Lords of the Fallen sur PS5, un jeu de CE Games. Et alors en 2ème place on a EA Sports FC 24 sur PS4. Et en 1ère place c'est EA Sports FC 24 sur PS5. Le top 3 pour la Xbox série, on a en 3ème place Assassin's Creed Mirage, en 2ème place Forza Motorsport et en 1ère place EA Sports FC 24. Pour la PS4, on a en 3ème place Red Dead Redemption, en 2ème place c'est Assassin's Creed Mirage et en 1ère place EA Sports FC 24. Le top 3 pour la Xbox One, on a en 3ème place Assassin's Creed Odyssey, en 2ème place The Crew Motorfest et en 1ère place Hogwarts Legacy. Le top 3 pour la Switch, on a en 3ème place The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, en 2ème place c'est Mario Kart 8 Deluxe et en 1ère place EA Sports FC 24. Le dernier top c'est le top 3 PC avec en 3ème place Minecraft Java and Bedrock, en 2ème place Starfield et en 1ère place EA Sports FC 24. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc il va falloir être très patient avant d'avoir des nouvelles de The Elder Scrolls 6. C'est en tout cas ce que déclare Bruce Nesmith, ancien développeur chez Bethesda, qui en a récemment dévoilé davantage concernant la stratégie marketing du studio. Donc il va falloir s'armer de patience avant de pouvoir en apprendre davantage concernant The Elder Scrolls 6. C'est du moins ce qu'a déclaré récemment Bruce Nesmith, ancien développeur chez Bethesda, qui a travaillé en tant que lead designer sur The Elder Scrolls 5 Skyrim, au micro de la chaîne YouTube MinMax. Selon le développeur, Bethesda ne devrait pas dévoiler d'informations majeures à propos de The Elder Scrolls 6 au mieux 6 mois avant la sortie du jeu. D'après lui, cette stratégie marketing serait celle adoptée par Todd Howard, la figure emblématique de Bethesda et réalisateur de la plupart des jeux du studio. Donc je cite... L'entreprise a été attaquée pendant des années pour ne pas avoir parlé de The Elder Scrolls 6, parce que selon le point de vue de Todd Howard, que je partage d'ailleurs, l'industrie du jeu vidéo a la mémoire courte. Les studios qui vantent les mérites de leur jeu des années avant leur sortie se sabotent. Le meilleur moment pour parler d'un jeu est donc environ 6 mois avant sa sortie. Évidemment, les déclarations de Bruce Nesmith n'ont rien de définitif. Déjà parce que le studio n'a pas toujours opéré de cette façon, preuve en est avec Starfield dont on parle depuis déjà moult temps, mais aussi parce que The Elder Scrolls 6 a déjà été dévoilé avec un court teaser diffusé pendant l'E3 2018, donc il y a déjà 5 ans. Concernant ce reveal précoce, là encore Bruce Nesmith a son mot à dire. Pour lui, le court teaser diffusé avait seulement pour objectif de rassurer les fans. Je cite... C'est simplement parce que les torches et les fourches étaient sorties que Todd a dit « Oui, nous allons faire The Elder Scrolls 6. Je vous le promets, c'est réel, ça va arriver. Mais je parie que vous n'allez pas apprendre beaucoup de détails jusqu'à 6 mois de la sortie du jeu. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Je pense que c'est la meilleure approche. Cela a très bien fonctionné pour Bethesda par le passé. » Donc si le jeu est encore très loin de sa date de sortie, maintenant que Bethesda appartient à Microsoft, il se pourrait que la maison mère décide de revoir sa stratégie marketing, surtout au vu de la popularité de The Elder Scrolls. Quoi qu'il en soit, avec une sortie visée pour d'ici 2026, il est certain que The Elder Scrolls ne se montrera pas de sitôt. Pour avoir sa dose de Bethesda, mieux vaut se tourner vers Starfield, ou encore la série Fallout qui devrait sortir en avril prochain sur Prime Video. On passe maintenant à la news technologie. Donc dans un monde où la technologie semble de plus en plus dominer la vie, une vidéo virale rappelle que la nature a encore de quoi surprendre. Un aigle, dans un élan de prouesse naturelle, s'est emparé d'un drone volant près du parc national de Capitol Reef dans l'Utah. Dans une vidéo diffusée sur AirDrones subreddit, un oiseau de proie démontre avec brio ses talents de chasseur inégalés. Donc le photographe Adam Culberston, connu sur Instagram sous le pseudonyme Atomic Adventure, filme régulièrement ses survols de paysages impressionnants avec son drone. Lors d'un vol récent, capturé près d'anciennes formations rocheuses à proximité du parc national de Capitol Reef, dans l'Utah, un élément inattendu est venu perturber le scénario habituel. Après environ une minute de vol stable, le drone est soudainement déstabilisé. Un aigle fait son apparition, dominant de sa présence l'écran et éclipsant la machine volante. L'un des aspects les plus intrigants de l'incident est la manière discrète dont l'aigle aborde sa cible. La caméra du drone, orientée vers l'avant, n'a pas réussi à capturer l'approche du rapace. Ce détail met en lumière les compétences naturelles de ces oiseaux de proie, capables d'approcher leur cible sans être détectés. Culbertson a tenté de récupérer son drone, mais en vain. Selon lui, l'aigle volait à une vitesse dépassant les 60 km/h et se trouvait déjà loin quand la connexion avec le drone a été perdue. Il est intéressant de noter que DJI, le fabricant du drone, a remplacé l'appareil, car dans le langage de l'industrie des drones, un tel événement est qualifié d'envol, un terme désignant une perte involontaire de l'appareil. Comme l'ont relevé plusieurs membres de la communauté Reddit, les vidéos montrant des aigles s'emparant de drones sont devenues tellement fréquentes que certains spéculent sur le fait que les fabricants pourraient recruter les oiseaux de proie pour une sorte de marketing viral naturel. Cet incident rappelle que, malgré les avancées technologiques, la nature demeure un acteur puissant et imprévisible, capable de rééquilibrer les forces en présence de manière tout à fait surprenante. Voilà. Et si vous voulez pas perdre vos drones, faites attention où vous les déployez. Voilà. Laissez les oiseaux tranquilles. On va donc finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu une sortie aujourd'hui, vendredi 27 octobre, avec Alan Wake 2 sur PC, PS5 et Xbox Series. On aura d'autres sorties mardi 31 octobre avec Jusant sur PC, PS5 et Xbox Series, Little Goody Two Shoes sur PC, PS5 et Xbox Series, et le super jeu Headbangers Rhythm Royale sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu avec des pigeons. C'est un peu comme Fall Guys, mais sur des jeux de rythme avec des pigeons. Voilà, c'est merveilleux. Ensuite, pour mercredi 1er novembre, on aura la sortie du jeu Song of Nunu, A League of Legends Story, sur PC, PS5 et Xbox Series. Et les deux dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 2 novembre, avec The Talos Principle 2 sur PC, PS5 et Xbox Series, et Star Ocean The Second Story R, qui sera disponible sur PC, PS5 et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.